Voilà, que le Seigneur soit béni. Je voudrais continuer à partager ce sujet avec vous sur le repos. Vous savez que c'est un sujet qui m'a beaucoup préoccupé, c'est un sujet qui me poursuit pour la simple et unique raison que c'est ce que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous connaissions véritablement le repos. Alors on va partir d'un texte dans le livre des psaumes. Nous allons partir dans le psaume 95. Ça va nous servir de base parce que c'est un texte qui indique bien pourquoi et comment le peuple d'Israël n'est pas rentré dans le repos. Beaucoup de chrétiens sont agités, craintifs, ont peur. Et vous allez voir, c'est facile à comprendre quand on explique ce que l'on va partager. Dans le psaume 95, on va lire ce qui nous intéresse à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Je vous encourage à noter les textes. Vous voyez, quand j'ai écouté ce matin Rodrigue prier, je sais qu'il a lu le livre d'Osée cette semaine. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Je vous avais demandé de le lire. Et à sa prière, j'ai bien compris qu'il avait lu ce livre. Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, regardez ce soupir. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Je relis ce soupir. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous avez là, au travers de quelques versets, toute une explication, une belle explication de la peine de Dieu, parce que quand Dieu parle de colère, vous comprenez bien que ça paraît tout, complètement à l'opposé de tout ce qu'on va traverser. Dans la parole de Dieu, chaque fois que nous voyons la colère de Dieu qui s'exprime, alors que ça paraît ne pas être méchant, parce qu'il y a eu des paroles, des murmures, on pourrait dire, attends, mais comment ça se fait que Dieu se mette en colère pour des choses aussi bénignes? Quand la colère de Dieu s'exprime, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. C'est que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Et chaque fois, vous l'observerez maintenant plus facilement, chaque fois que vous voyez la colère de Dieu s'exprimer, ça veut dire en vérité que son œuvre ne pourra pas se faire. Et lorsque des croyants ne sont pas dans le repos, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire non plus. Parce que ça paraît vraiment disproportionné que Dieu exprime une forme de colère, alors que ce n'est pas des choses profondément graves d'endurcir son cœur. On pourrait dire, bon, mais quand même, de murmurer, on ne va pas en faire un plat, etc., etc. Mais l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Et nous, les chrétiens, qui avons le privilège de connaître Dieu, qu'est-ce que nous voulons, à part que l'œuvre de Dieu se fasse? Est-ce que vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Bon, Dieu nous a gardés sur la terre, Dieu pourrait nous prendre, dès que l'on est converti, Dieu pourrait nous prendre avec lui. Bon, Dieu a jugé bon, à partir du moment où il est monté au ciel, il a soufflé, vous le savez, sur les apôtres, afin que ce ne soit plus par Jésus que l'évangile soit propagé, l'évangile elle est propagé par les chrétiens. Dieu l'a voulu ainsi, mais une chose est certaine, nous devons connaître le repos. C'est absolument vital, d'autant plus, il n'y a pas besoin d'être un prophète, que les choses vont aller en s'empirant. Nous vivons des temps vraiment difficiles, nous allons vivre des choses de plus en plus affreuses, rien ne s'arrangera. Vous pouvez mettre les politiciens que vous voulez, les psychologues que vous voudrez, vous pouvez mettre ce que vous voudrez, les choses iront en empirant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus qui l'a dit. Mais Dieu gardera ses enfants. Dieu gardera son Église, Dieu gardera ses enfants qui seront protégés de la même manière que nos corps actuellement sont protégés de la pluie, du vent, du froid, parce que notre corps est dans ce bâtiment ou dans un autre. De la même manière, un chrétien est protégé quand il est en Christ. Les gens, il faut bien que le comprennent, les gens qui n'appartiennent pas à Dieu sont tous comme des SDF, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de protection. tous, qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient sages, qu'ils soient bêtes ou indisciplinés, tous les gens n'ont pas de protection. À partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ, vous êtes protégé. Vous avez vu comment c'est bien d'être quand le corps est protégé. C'est bien quand le corps... Vous n'appréciez pas la couette, le chauffage. Est-ce que vous appréciez? C'est une bénédiction. Vous avez vu combien le corps apprécie? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que nous avons souvent ces textes, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Je vous ai parlé mardi du fils aîné. Dans la parabole du fils prodigue, il y a énormément d'enseignements sur le fils aîné. On parle souvent du fils prodigue parce qu'il est parti. Mais celui qui était resté était autant rétrograde que le premier. Son comportement nous prouve qu'il n'était pas dans le repos. Pourquoi ? Parce qu'il a méprisé son père, et il est resté dehors quand il a appris que son frangin revenait. Il s'est même mis en colère. Tout cela exprime un homme qui n'est pas dans le repos. Visiblement, il n'avait pas rétrogradé, mais moi je peux vous dire que son comportement prouvait qu'il était aussi rétrograde que son frère. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi ? Parce qu'il ne connaissait pas son père. Il n'avait pas quitté la maison, mais vous avez la preuve que malgré le fait qu'il était resté fidèle, entre guillemets, ce garçon n'avait pas de communion avec son père. Alors, le titre de ma prédication ce matin est celui-ci. Comment connaissez-vous votre père ? Comment le connaissez-vous ? Vous avez lu dans le seul texte que l'on vient de lire, vous voyez qu'en fin de compte... Ils ne le connaissaient pas. Pourtant, on a lu, quoique, ils aient vu mes œuvres. Ils avaient vu les œuvres de Dieu. Et comment ? Ils avaient vu les dix plaies d'Égypte. Ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir. Enfin, c'était quand même des expériences hors du commun. Oui ou non ? Vous voyez ? Ils avaient vu l'œuvre de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Ils savaient qu'il y avait un Dieu puissant qui était capable d'agir. Mais ça s'arrêtait là. Le fils prodigue était dans le même cas de figure. Il savait que son père quand même veillait au grain, mais il n'avait pas de communion avec lui. C'est terrible parce qu'il est triste, il s'aigrit, et quand les gens s'aigrissent, commencent à se fâcher. Vous avez vu les Galates ? Je vous ai demandé de lire l'Épître aux Galates. Les Galates, c'est pareil, ça va très très loin cette affaire, parce que Paul est d'une sévérité incroyable. Il va même jusqu'à dire que ceux qui rajoutent à la grâce, maudit soit eux, maudit soit celui qui... Vous vous rappelez ? Ça va très loin cette affaire. Si vous lisez les Galates, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul, pourtant un homme plein d'amour, prononce la malédiction sur les gens qui rajoutent à la grâce la loi. Il dit, mais vous êtes déchus de la grâce si vous cherchez la justification par la loi, etc., etc. Ça va très très loin cette affaire-là. Mais donc, nous, on ne va pas juger les Galates, mais en fait, alors qu'il dit, Paul, mais toute la loi... Et résumé à une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez les uns les autres, l'œuvre de Dieu ne se fera pas. Voilà. Donc quelqu'un qui connaît le repos de Dieu, il se contente d'aimer son prochain. Voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà. Celui qui ne veut pas aimer rentre dans une espèce de conflit, de difficulté, et voilà, et on en arrive à ce qu'il ne faudrait pas arriver. Et c'est pour ça que beaucoup de païens n'ont pas envie de devenir chrétiens quand ils voient le comportement de certains chrétiens. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ben oui, on en a honte, mais le problème n'est pas d'avoir honte, le problème est comment faire pour mieux connaître Dieu ? Comment connaissez-vous Dieu ? Nous serions certainement surpris si nous devions, chacun sur un papier, en 10 lignes, en 10 phrases, exprimer notre connaissance de Dieu. Que mettriez-vous ? Si je vous disais, voilà, on pourrait le faire, ce n'est pas du tout malsain. Voilà, en 10 lignes, 10 phrases, vous exprimez comment vous connaissez Dieu. Si on avait fait faire cet exercice aux pharisiens, je peux vous dire... que ça aurait été un drôle d'exercice, quoique tout ce qu'ils auraient dit était peut-être entièrement biblique. Comment connaissez-vous Dieu ? Certains ne connaissent Dieu que par rapport aux expériences qu'ils ont pu faire, comme les Hébreux, qui pourtant ne sont pas rentrés dans le repos, mais ils avaient vu les œuvres de Dieu se manifester au travers de leur génération. Avez-vous fait des expériences avec Dieu ? Je me souviens de cette jeune fille qui a pris le baptême ici, et qui a dit ceci, je me souviens. Moi, je n'ai pas fait d'expérience avec Dieu. Je prends le baptême, je n'ai pas fait d'expérience dans le sens où je n'ai jamais touché à l'alcool, je n'ai jamais touché à la drogue, je n'ai jamais eu besoin de délivrance. Ma seule expérience, c'est que je crois au pardon de Jésus-Christ. Et je lui ai donné ma vie. Cette fille, elle n'est plus là, elle est partie ailleurs travailler. Elle est toujours fidèle à Dieu, je la connais bien. Elle est toujours fidèle à Dieu. Elle n'a jamais fait d'expérience particulière de délivrance, de guérison. Elle s'est convertie parce qu'elle avait le respect des choses de Dieu. Vous voyez, elle n'a pas fait d'expérience. D'expérience extraordinaire. Elle n'avait pas besoin. Mais elle a fait l'expérience avec un E majuscule d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Il y a des gens qui ont fait des expériences en veux-tu, en voilà, et qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Sauveur. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne sont pas dans leur repos, c'est cela. Et peut-être que vous-même vous dites, bien, mais pourtant celui-là, il a été délivré de la drogue, il a été délivré de l'alcool, il a été délivré de ceci, de cela. Mais enfin, c'est quand même un drôle de chrétien. Eh oui! Parce qu'il a expérimenté la grâce de Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Et quelqu'un qui vit dans le repos, il a ce souci de connaître Dieu. La vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment connaissez-vous le Seigneur? Que connaissez-vous de lui? C'est très simple et en même temps c'est très sérieux. Que connaissez-vous de sa bonté? Est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Oui, mais quelqu'un de tordu. Oui, monsieur, vous avez parlé de sa bonté, et pourtant là, nous voyons que Dieu jure dans sa colère, voyez, il n'entre pas dans le repos. C'est complètement paradoxal. Pas du tout, pas du tout. On connaît la bonté du Seigneur, et vous pouvez avoir droit tous les jours à la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, on pourrait parler de la bonté de Dieu. Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Mais vous êtes heureux si vous avez goûté que Dieu est bon. Est-ce que vous croyez dans la justice de Dieu? Que Dieu est juste, hein? Que le jugement de Dieu sera juste. Est-ce que vous croyez que le jugement de Dieu sera juste? Parce qu'un jour, il y aura le jugement dernier. C'est une grosse affaire, ça, le jugement dernier. La Bible dit que le jugement de Dieu sera juste. Vous croyez dans l'amour du Seigneur? Cette semaine, j'étais pas content. Je suis parti amener ma fille à l'école et j'écoutais France Info. Il y avait le directeur du Témoignage chrétien. C'est un grand journal chrétien. On lui posait la question par rapport au sujet qu'on aborde en ce moment sur l'homosexualité. Et on demandait à cette... Moi, j'étais content, je me disais, tiens, il va prendre position. Le directeur du Témoignage chrétien. J'espère que cette prédication lui remontera. Cet homme me disait, voilà, directeur d'un journal qui s'appelle le Témoignage chrétien. Il disait, mais vous savez, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez vu une chose, c'est que Dieu est amour. Et que Dieu est amour, et que Dieu veut que tout le monde s'aime, et que les hommes peuvent s'aimer entre eux, que les femmes peuvent s'aimer, que tout le monde peut s'aimer. Le mot d'ordre de l'évangile, c'est l'amour. Et moi, j'étais là, dans ma voiture, j'ai arraché le volant. Je pensais que l'amour va toujours avec la sainteté. L'amour va toujours avec la vérité. Et voyez, on propage ces choses, c'est le directeur du Témoignage chrétien. Vous vous rendez compte, c'est une infamie de propager ces choses-là. Parce que déjà, ces choses en soi sont, cataloguées par l'apôtre Paul d'infamie et d'abomination. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Bien sûr que Dieu veut sauver tous les hommes et qu'un homosexuel peut se convertir. J'entendais également un homme qui prononçait ce verset, mais c'est pour vous aider. Un homme qui, dans un débat sur l'amour, etc. Mais Jésus a dit, voyez un petit peu comment on peut être tordu, Jésus a dit que les prostituées et les publicaines devanceraient dans le royaume de Dieu, dont toutes les prostituées seront sauvées. Oui, les prostituées qui se repentiront et qui se convertiront. Bien sûr qu'elles devanceront les religieux qui faisaient du cinéma. C'est certain. Mais voyez comment on a vite fait de tordre les Écritures. Et il y a des chrétiens qui gobent ces choses. Plus que, apparemment, c'est accepté que des chrétiens ont besoin de débattre sur le sujet. Mes frères et sœurs, moi j'aime le débat, mais ça ne sert strictement à rien de débattre sur des choses aussi claires dans la parole de Dieu. C'est pour vous montrer comment le monde a aimé et choisi le mal. Et le résultat, c'est que leur cœur s'égare, comme on l'a lu. Leur cœur s'égare, les gens veulent bien l'amour de Dieu, mais ils n'ont pas compris que l'amour, ça va toujours avec la sainteté. Que l'amour, ça va toujours avec la vérité, etc., etc. Dans l'histoire des Galates, on le voit vraiment, ça vaut la peine, écoutez-moi, si vous voulez mieux cerner ce sujet, je vous encourage à faire ce que Rodrigue a fait cette semaine, cette fois-ci, à méditer le psaume 78. Alors on va juste lire un verset, c'est juste avant. Dans le psaume 78, c'est tout le résumé de l'histoire d'Israël. C'est vraiment extraordinaire. Comment c'est fait? C'est Asaph, il résume tout le parcours. En je ne sais pas combien de versets, en 72 versets, il résume l'histoire d'Israël du début jusqu'à David. Et ils ont fait des expériences, mais ce n'est pas possible les expériences qu'ils ont pu faire. Comment ils ont goûté à la bonté de Dieu. C'est un truc de malade, comment ils ont vécu et expérimenté la bénédiction de Dieu. Mais regardez, on va lire un verset qui nous fait mal au cœur. Verset 22. Il faut le méditer. S'il vous plaît, faites-le. Si vous voulez avancer dans ce sujet, il vous faut peut-être plus qu'une exhortation. Il vous faut avancer dans la compréhension des Écritures. Ça a été écrit dans ce sens. Psaume 78, verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Voilà, là vous avez une explication. Mais pourtant, je peux vous dire que Dieu les a secourus. Vous allez voir. Il faut avoir du toupet pour dire que Dieu ne les a pas secourus, croyez-moi. Dieu n'a fait que ça, les secourir. Mais ils sont restés dans le désert, c'est-à-dire ça représente les chrétiens qui n'arrivent pas à connaître les verts pâturages. Le désert, c'est des étapes par lesquelles il faut que nous passions parfois. D'ailleurs, tout simplement, pour aller d'un pâturage à un autre, parfois, ça passe par un moment difficile. Ça peut arriver que vous passiez un jour difficile. C'est exactement comme un berger quand il amène un troupeau d'un pâturage à un autre. Il peut y avoir, comme ça, un jour ou deux de difficile, assez cadré, c'est bien. Dieu le permet. Mais normalement, le désert, même si Dieu veut que nous le traversions, Dieu ne veut pas que nous nous installions dans le désert. Ils s'y sont installés pendant 40 ans parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Alors qu'ils avaient fait des expériences, en veux-tu ? En voilà, ils ne lui ont jamais fait confiance. Ils ne lui ont pas fait confiance, pas parce que c'était des Hébreux, ou parce que si, ou parce que nous sommes des Français, ce que vous voudrez. Ils ne lui ont pas fait confiance parce qu'ils ne le connaissaient pas. Quand vous connaissez quelqu'un, vous lui faites confiance ? Oui ou non ? En pensant à cette prédication, tout à l'heure, je pensais quand M. Olé m'a envoyé un fax il y a 15 ans, pour me dire, monsieur Go, voilà, nous avons discuté avec le conseil d'administration, et vous serez le pasteur. C'est pas vous aussi, c'est vous qui m'avez envoyé le fax. C'est vous avec le conseil. Taisez-vous, monsieur Olé. J'ai reçu un fax de monsieur Olé qui précisait que je serai le pasteur de Saint-Agne. Quand j'ai reçu le fax, c'était un fax d'un homme que je connais, qu'on connaît, que le mouvement entier connaît. Je savais que je serais pasteur à Saint-Agne. Pourquoi? Parce que c'était signé de la part d'un pasteur. J'avais confiance en cet homme. Je n'ai pas commencé à me dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que M. Olé, on peut lui faire confiance? Oui, il y a des gens en qui on peut avoir confiance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça m'a apaisé et je crois que la confiance, c'est ça. Dieu l'a dit, je le crois. Et quand on commence à dire, oui, c'est écrit, mais c'est que vous n'avez pas confiance en Dieu. Vous pouvez le tortiller comme vous voudrez, ça ne change rien. Quand Dieu a dit quelque chose, c'est important. Alors, vous voyez, moi, quand je discute avec les gens, je le vois, mais il y a des gens, c'est réglé, ils font confiance à Dieu. Ce matin, Michael Fontaine nous rappelait l'expérience de Pierre et Jean lorsqu'ils étaient pleins d'assurance. Pourtant, je veux dire, ils avaient été battus, ils avaient été emprisonnés, oui ou non? Ce n'est pas parce qu'on traverse des épreuves qu'on va perdre l'assurance. Ils étaient, vous l'avez entendu? Oui ou non? Vous avez écouté la Sainte-Seine? Ils étaient pleins d'assurance, et pourtant ils avaient été emprisonnés, et ils avaient été battus. L'assurance ne vient pas parce qu'on a des épreuves ou parce qu'on n'en a pas, l'assurance vient parce qu'on connaît Dieu. Si votre communion avec Dieu disparaît, vous n'aurez pas d'assurance, que vous ayez des épreuves ou que vous n'en ayez pas. Ce n'est pas une question d'épreuve, c'est une question de connaître Dieu. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous aurez tout le temps cette difficulté dans votre cœur, vous vivrez dans... Il y aura une espèce d'indifférence, vous sentirez Dieu qui est loin, parce que vous dépendrez de vos émotions. Et le résultat, c'est que vous serez complètement épuisé. Et il y a des chrétiens qui sont épuisés. Et ça, c'est ce que le diable veut. Le diable ne veut pas que vous ne croyiez plus en Dieu, ça lui est entièrement égal. Ce que le diable veut, c'est que vous ne fassiez pas confiance à Dieu. Que vous veniez à l'église, que vous lisiez votre Bible, que vous passiez des heures à prier, tout ça. Il s'en fiche, le diable. Il s'en fiche complètement. Ce que le diable veut, c'est que vous n'ayez pas confiance. Parce que quand quelqu'un a confiance, il devient un véritable disciple qui a un témoignage extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où il procure la paix et la consolation. Qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, les gens d'aujourd'hui? Ils ont besoin de paix. Ils ont besoin de paix. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avant-hier? Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais je peux vous dire, hélas, que ces choses se reproduiront quand on voit ce que le monde donne à nos enfants. Il y a quelques jours de cela, c'est pas vieux, il y a 15 jours, c'était dans mes congés là où j'étais en maladie, il y a ma femme qui garde des gosses, elle garde un gosse, et ils y ont amené, ce gosse portait une bande dessinée. Mais comme j'avais le temps, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'était cette bande dessinée. Dragon Ball Z. Bon, moi, je ne savais pas ce que c'était. Je regarde, le gosse, il a 2 ans. Dans ce dessin animé, rempli de violence, les gens qui se découpaient, qui se décapitaient, des bandes dessinées, les têtes qui sautaient, du sang partout. 2 ans. Même moi, je ne le donnerais pas à un adolescent. Mes frères, nous sommes dans un monde, on fête Noël, je parle d'une manière générale, on fête Noël, mais on ne veut pas de Jésus-Christ, c'est pas vrai. Noël, c'est extraordinaire, dans le sens où chaque lumière nous ferait nous rappeler qui est la véritable lumière. C'est extraordinaire, toutes ces lumières, moi j'aime bien, franchement. C'est beau, les décorations de Noël, tout ça. Et moi, chaque fois que je vois des décorations, je pense à la véritable lumière. Mais s'il n'y a pas la véritable lumière, tout ça, c'est du théâtre. Et nous sommes dans un monde qui a choisi le mal. Et c'est pour que vous compreniez bien pourquoi tant d'hommes ne sont pas dans le repos. Regardez avec moi dans le Deutéronome. Je voudrais que vous lisiez. Dieu nous a laissés libres. On pourrait dire, oui, mais quand même, ça se passe. Et pourquoi Dieu a permis ceci? Alors, on va d'abord lire dans le psaume de Moïse. Oui, c'est un psaume. Dans le psaume de Moïse, dans le psaume 32, c'est un cantique de Moïse. Je le lisais hier. Je ne pensais pas qu'on l'aborderait. Mais regardez ce qu'il dit. Le psaume de Deutéronome 32, Moïse compose un psaume. Et regardez ce qu'il dit à partir du verset 4. Il est le rocher. Est-ce que Dieu est votre rocher? Parce que c'est une chose de dire Dieu est le rocher de l'Église, Dieu est le rocher d'Israël. Ça n'est une autre de dire l'Éternel est mon rocher. Ce que David savait faire d'ailleurs. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Il est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Regardez la suite. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Et regardez la question qui est posée à l'Église, à l'histoire. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable? Peuple insensé et dépourvu de sagesse. Car il faut être malade ou insensé pour s'autoriser à dire pourquoi Dieu l'a voulu. Nous n'allons pas quand même en rendre Dieu responsable. Pourquoi? Eh bien parce que c'est écrit plus loin, dans Deutéronome, avant. C'est écrit juste avant. Et c'est important. Dans Deutéronome, il faudrait méditer du chapitre, alors le chapitre 30, verset 11 au verset 20. On sort un peu du repos, c'est clair. Mais je voulais dire ces choses ce matin pour que vous compreniez bien que Dieu nous a mis devant un choix. Si vous vivez dans le repos, c'est que vous aurez choisi le repos. Regardez, on va quand même le lire. Deutéronome 30, verset 11. Voilà, il y a pas. Par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis, on n'a pas besoin. J'ai entendu, vous avez fait comme moi, certainement, vous avez regardé les informations, peut-être un peu plus qu'à l'habitude, et vous avez certainement entendu. Et c'est pas un reproche parce qu'on est tous malheureux. Mais le seul moyen de régler ces choses, c'est qu'il y ait davantage de psychologues partout. Ça a été présenté comme ça. Si vous avez suivi, vous savez que c'est vrai. Moi, je crois que les psychologues peuvent faire du bon travail. Mais je crois qu'il n'y a que Jésus qui peut donner la paix. Il n'y a que lui qui peut donner la paix. Regardez ce texte. On sort du sujet tout en y restant quand même parce qu'on comprend comment on peut choisir. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, ira nous le chercher, afin que nous le faire entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Dieu explique dans ce texte qu'il y a des gens, ils ont un esprit de fuite, je vais dire. Ils ont tout, si je déménage, ça ira mieux. Si je vais travailler là-bas, ça irait mieux. Si je vais dans une autre église, ça ira mieux. Moi, je n'y crois pas. Et Dieu est en train d'expliquer que sa grâce ne dépend pas de la géographie ou même d'aller dans le ciel. Sa grâce dépend de la suite. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Regarde bien, c'est pas compliqué. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. quand je fais allusion à ces jeux vidéo, à ces bandes dessinées pour des enfants de 2 ans où les gens s'entretuent, laissez-moi vous dire que vous savez qu'est-ce que les gens ont choisi. Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas mettre entrée en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, je répète, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Donc vous voyez que la vie, la grâce, la bénédiction dépendent d'un choix. C'est un choix de s'enfermer dans un local pour ne pas être aux aléas de l'intempérie. C'est un choix. Vous protégez votre corps. Les gens savent très bien protéger le corps, ça c'est clair, et on a raison de le faire. Mais les gens ne savent pas protéger leur âme et leur esprit. Et c'est pour ça que les gens choisissent le mal. Et n'en rendez pas Dieu responsable. De grâce, au moins les chrétiens, n'en rendez pas Dieu responsable. Peuple insensé, un croyant, bon inconverti, ça s'explique. Mais quand un croyant commence à rendre Dieu responsable, comment voulez-vous qu'il entre dans le repos? Quand dans le texte qu'on a lu, qu'on n'a pas tellement encore expliqué, mais dans le psaume 95, quand Jésus explique cette affaire qu'ils n'entreront pas dans le repos, quand Dieu, on voit la souffrance de Dieu qui est obligé d'exprimer cette colère, c'est-à-dire cette indignation profonde de voir que le peuple de Dieu va passer à côté du repos pour la simple raison qu'ils ont tenté Dieu. Vous avez vu avec moi, vos pères me tentèrent. Mais tenter Dieu, c'est pas une grosse affaire. Vous savez, moi j'en entends tellement aujourd'hui. Tenter Dieu. Il fait allusion, vous savez, quand ils sont arrivés à Massa, où Dieu permet que dans le désert, il y a une source amère. Aïe, ces affaires où Dieu permet parfois que les choses soient amères. Est-ce que Dieu vous a déjà conduit dans une situation amère? Oui ou non? Mais tous. Si vous n'avez pas senti que parfois l'eau était amère, c'est que vous avez l'altération du goût, croyez-moi. Dieu peut conduire quelqu'un dans des moments amers, oui ou non? Mais quand vous lisez Exode, par exemple, chapitre 17, vous vous rendez compte qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré parce que ça ne leur plaisait pas. Et ils ont fini par dire, mais Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Et c'est là que Jésus, Dieu fait allusion à cette affaire, qu'ils ont murmuré, ils tentèrent Dieu en disant, Dieu est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Mais vous comprenez bien que ça n'a pas plu à Dieu, parce que Dieu est toujours avec nous. Et voyez, ils ne sont pas rentrés dans le repos. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, de toute façon, ce n'est pas important. L'état d'esprit, ce n'est pas important. C'est le résultat qui est important. Mais quand un chrétien dit « Oui, Dieu n'est pas au milieu de nous, vous avez vu ce qui se passe ?» Eh bien, comment voulez-vous qu'ils entrent dans le repos? Comment voulez-vous qu'un chrétien est dans le repos s'il doute sur la toute-puissance de Dieu, s'il doute sur la parole de Dieu quand Jésus dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde » Quand Dieu a dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement » On entend même dans nos assemblées pentecôtistes des chrétiens qui commencent à dire que Dieu change. Qu'il faut faire les choses différemment, que la doctrine, bon, chacun l'interprète à sa façon. Et tout ça, ça fait son chemin, et ça fait qu'on a un Dieu différent. Rappelez-vous comment Paul est sévère aussi. Maudit soit celui qui dit ça. Parce qu'on ajoute des choses qui n'ont rien à voir avec les évangiles. Jésus-Christ, quand vous avez lu l'Apocalypse, quand il se présente, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Dieu qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. » Est-ce que vous croyez que Dieu, que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga? Ça veut dire le commencement et la fin. Alors, il y a des cantiques, je suis l'alpha et l'oméga, alors c'est poétique, c'est joli, vous voyez, on a mis deux mots hébreux là-dedans. Mais ça ne veut pas dire l'alpha, l'oméga, oui, c'est la première lettre de l'alphabet grec, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, ça fait bien. Mais ça veut tout simplement dire que Dieu gère tout du début à la fin. qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Personne ne peut avoir confiance à un Dieu qui changerait. Vous vous rendez compte si Dieu changeait? Imaginez que Dieu change d'avis. Qu'il envoie un nouveau courrier, que Dieu envoie un mail, une nouvelle lettre, Jean, psaume 151, allez tiens, le psaume 151. Voilà, j'ai changé d'avis. Je vous aime, mais c'est pas sûr, avec tout ce que vous faites, que je vous aime pour l'éternité. Imaginez-vous que Dieu change d'avis. Est-ce que vous pourriez avoir un Dieu qui change d'avis? Confiance en Dieu, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi les chrétiens sont dans le trouble, dans l'agitation, dans le crainte, dans la peur du lendemain? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Il est le Dieu qui ne change pas. Et si vous lisez sa parole, vous avez vu le peu qu'on a lu ce matin, permet de comprendre que Dieu est un Dieu qui se révèle. Et une fois que vous lisez la parole de Dieu, vous découvrez le caractère de Dieu. C'est important de découvrir le caractère de Dieu. Les expériences, c'est bien, mais qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Faire plein d'expériences jusqu'à la fin de votre vie? Si vous êtes malade, être guéri, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert si on ne lui fait jamais confiance? Combien de gens ont été guéris par Jésus et ne sont jamais revenus s'occuper de leur salut? Sur les 10 lépreux, combien sont revenus? 8, 9? Un est revenu s'occuper du salut de son âme. Combien de chrétiens marchent avec Dieu exactement comme les 9 premiers lépreux au cas où? S'il y a une tuile, il faut qu'on ait quand même un Dieu qui nous soigne. Avant, je priais la Vierge, avant, je priais les saints. Maintenant, quand même, bon, je sais que Dieu est vivant, je sais que ça peut marcher un peu mieux que la Sainte Vierge, ou que ci, ou que là, je sais qu'il faut prier qu'un Dieu. C'est ça, votre piété? C'est ça, votre confiance en Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu parce que de temps en temps, eh bien, c'est la roue de secours? Ou est-ce que vous aimez Dieu parce qu'il est Dieu? S'il vous secourt, merci Seigneur, s'il ne secourt pas, il a une raison. Moi, je crois dans son secours. Je crois dans son secours. Je crois que Dieu peut nous secourir. Que toutes les prières qu'on a fait monter ce matin avant la réunion, que toutes les louanges qu'on a fait monter, tout ça, Dieu les entend, Dieu les exauce. Je le crois. Mais je crois que si Dieu n'agit pas, il sait ce qu'il fait. Parce que je crois que c'est un Dieu qui nous aime, vraiment. Ici, vous voyez sa miséricorde. Là, vous voyez sa sévérité. Là, vous voyez son amour. Là, vous voyez sa tendresse. Là, vous voyez sa justice, etc. Mais ce n'est que comme ça, en découvrant le caractère de Dieu, que vous pouvez dire, oui, Dieu est mon rocher. Dieu est ma forteresse. Dieu est mon libérateur. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et vous savez, moi, ça nous brise le cœur, moi, en tant que pasteur, mais les chrétiens qui sont affermis dans la foi sont également peinés de voir tant de chrétiens qui se... Excusez-moi l'expression, c'est peut-être pas très gracieux, mais qui se traînent, qui vivent mal leur foi parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Et laissez-moi vous dire que quand on aura voté les lois sur l'homosexualité en France, attendez-vous à ce que les fenêtres s'ouvrent, mais pas les bonnes. Hein. Vous savez, moi, je compare la bénédiction à une maison avec les portes et les fenêtres fermées. Vous craignez pas la neige, vous craignez pas le gel, vous craignez pas le froid. Vous êtes d'accord? Est-ce que franchement, si vous avez un feu de cheminée, si vous avez le chauffage, si vous avez tout ce qu'il faut, si on vous dit il fera moins 5 cette nuit, est-ce que ça vous affole? Ben non. Au contraire, vous allez bénir Dieu. C'est exactement. Imaginez, vous êtes dans une pièce, vous savez qu'il va grêler, il va venter, il va faire du vent, de la pluie, de l'humidité, que dans cette petite pièce, il y a une grande baie vitrée et qu'elle va être cassée. Est-ce que vous allez moins rire? Mais c'est exactement pareil. Quand vous marchez avec Dieu, quand vous êtes sous son sang précieux, tout est bien fermé. Et vous ne craignez pas les terreurs de la nuit. Vous ne craignez pas la flèche qui vole de jour. Vous ne craignez pas toute la lune, etc. Vous connaissez tous ces textes. Quand vous obéissez à Dieu, et quand vous marchez avec lui, et quand vous le connaissez, et quand vous croyez que son sang précieux vous lave de tous vos péchés, parce qu'on en commet des péchés, vous êtes sous sa protection. J'ai souvent insisté sur l'obéissance, et il faut le faire, mais je pense que c'est équilibré aussi d'insister sur le fait que quand on a commis un péché, le Seigneur nous pardonne. Si on lui demande pardon, mais sûr, si on vit dans le péché volontairement, c'est une autre affaire. Mais faites-lui confiance, que le caractère du Seigneur puisse se révéler. Comment connaître le caractère de Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un sur la terre peut voir Dieu? Personne n'a jamais vu Dieu, mais Jésus, qui est dans son sein, nous l'a fait connaître. Vous voulez connaître Dieu? Eh bien, il vous faut connaître l'histoire de Jésus-Christ. Vous voulez connaître Dieu? Il vous faut lire les évangiles. Quand celui qui m'a vu, a dit Jésus, a vu le Père. sur la terre, comment connaître Dieu? Eh bien, il faut connaître Jésus-Christ. Vous connaissez tous les textes. Hein? Je ne fais rien de moi-même. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus est l'image du Dieu invisible. Il y a des textes où on pourrait en citer pendant toute une prédication, une centaine, 150, qui nous rappellent que Jésus-Christ est Dieu incarné. Vous voulez savoir comment Dieu aime les gens? Eh bien, regardez comment Jésus a aimé les gens. Et vous voyez comment Dieu aime les gens. En Christ habitait toute la plénitude de la divinité. Vous pouvez vous poser les questions que vous voulez, vous pouvez réfléchir, vous pouvez spéculer, vous pouvez faire tout ce que vous voudrez. Vous ne connaîtrez le caractère de Dieu qu'au travers du ministère de Jésus-Christ. Et si vous êtes empoisonné, je pèse mes mots, si vous êtes empoisonné par la peur, par la crainte du lendemain, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez vu, dans Jean chapitre 8, vous méditerez Jean chapitre 8. C'est un chapitre qu'on va peut-être prendre d'ailleurs dans les prédications à venir. Pourquoi? Parce que c'est dans ce chapitre, justement, où ils vont dire à Jésus qu'il a un démon. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où va la portée de la religion. D'ailleurs, déjà, nous l'ont déjà dit, qu'on était dans une secte. On ne vous l'a jamais dit? Hein? On vous a dit des trucs dont vous avez souffert. Bon, Jésus a dit, ils l'ont fait à moi, ils vous le feront à vous. Bon, ça c'est pas étonnant. Ce que les gens sont capables de penser de nous. Mais regardez, dans Jean chapitre 8, s'il vous plaît, lisez-le en entier ce chapitre. Je vous le demande parce qu'il y a un travail qui vient du pasteur, c'est vrai, mais il y a un travail qui vient de vous. De vous voyez, je savais que Rodrigue avait lu Osée cette semaine, c'était pas possible autrement. À moins qu'il ait beaucoup de mémoire. Mais lisez-en Jean chapitre 8. Et on voit qu'ils ne comprennent pas la parole. Et pourtant, ils connaissent par cœur la loi de Dieu. C'est un truc de malade. Ils connaissent les 5 premiers livres de la Bible par cœur, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est quelque chose de terrible. Regardez, on va lire juste quelques textes. Verset 37, Jean chapitre 8, non, 31. Lisez avec moi. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Verset 42, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. » Verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Regardez ce que Dieu va leur dire, ce que Jésus va leur dire, verset 44. « Vous avez pour père le diable. » La suite nous montre qu'ils n'ont pas trop apprécié. « Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il est le père de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Verset 47. « Celui qui est de Dieu... écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Verset 55, et à me redire la fin du verset 54 en entier. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Regardez la réaction. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vous les résume un petit peu. Jésus est en train de se révéler, ils ne l'acceptent n'acceptent pas. Ils croient de tout leur cœur que Dieu est leur Père, et en vérité, leur Père, c'est le diable, parce qu'ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez de Jésus-Christ comme votre Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est vraiment ce rocher? Est-ce que vous croyez qu'il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant? Est-ce que vous croyez qu'il prend soin de vos enfants, même si vos enfants ne sont pas encore au Seigneur, même si vos enfants sont comme le fils prodigue en train de manger avec les cochons? Est-ce que vous croyez que Dieu peut les accueillir, les bénir? Est-ce que vous croyez que Dieu vraiment a le pouvoir dans le ciel et sur la terre, qu'il règne et qu'il sait ce qu'il va faire et que ses jugements sont justes? Il est le rocher. Et si votre vie est empoisonnée par la crainte, il vous faut sortir de cette crainte. Si vous voyez Dieu, bien sûr, comme un tyran, comme un despote, en préparant cette prédication, hier je pensais à un cantique qu'on ne chante pas souvent, mais quand il est dit « L'Éternel, seul est Seigneur, seul il est dominateur ». Et on chante des trucs, dominateur. Est-ce que vous voulez un Dieu dominateur? Puisqu'on chante l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur. Vous pouvez le mettre, s'il vous plaît. C'est le titre, l'Éternel seul est Seigneur. Est-ce que vous voulez d'un Dieu dominateur? Si vous le connaissez, vous allez pouvoir dire de lui, sans problème. Est-ce que vous... Bon, le président de la Corée du Nord. Non, mais je suis très sérieux. C'est un dictateur. Est-ce que vous en voulez comme Dieu? Mais non. Est-ce que Dieu peut être dominateur? Est-ce que vous en voulez comme Dieu? Ben oui, parce que vous connaissez sa sévérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand vous connaissez, vous voyez, c'est un dictateur. Si on va par là, mais mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez, c'est une question de caractère. Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr qu'il y a des questions, mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous connaissez toute la Bible? Moi, je ne la connais pas, ça m'est égal. Enfin, ça m'est égal. Non, je veux la connaître davantage, mais ce n'est pas important. Est-ce que vous saviez qu'avant votre conversion, les anges veillaient sur vous? Vous l'avez appris quand? Avant ou après? Bon. Est-ce que ça changeait la promesse de Dieu avant ou après? Non. Les anges de Dieu, vous gardez quand même avant. Pourtant, vous ne connaissiez pas la promesse. Il y a plein de promesses qu'on ne connaît pas. Bon, c'est dommage. Mais il n'empêche que Dieu veille sur ses promesses. Et qu'elles s'accompliront. Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Comment le suivez-vous? Est-ce que vous le suivez dans la paix? Est-ce que vous pouvez perdre la paix? Est-ce que ça peut arriver qu'un chrétien perde la paix? Mais oui, on peut perdre la paix, parce qu'on a quand même tous des cartons, oui ou non? Mais c'est une chose de perdre la paix 3 minutes, c'est une chose de perdre la paix un quart d'heure, c'est une chose de la perdre définitivement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il faut faire très attention à cela. On peut perdre la paix. Il est dit, poursuivez la paix, recherchez la paix. C'est bien la preuve que l'on peut la perdre. Mais comment on voit Dieu? C'est ça. Comment connaissez-vous Dieu? Lisez le Jean chapitre 8. Et c'est un truc c'est vraiment, vraiment grave. Jésus est obligé de leur dire pour les éclairer, mais vous avez pour père le diable. Ça, c'est pas étonnant qu'il faisait fuir tout le monde. Et nous voulons glorifier Dieu. Nous, notre Père, ce n'est pas les assemblées de Dieu. Notre Père, ce n'est pas l'église évangélique. Notre Père, c'est Jésus-Christ. On a découvert Jésus dans l'église évangélique, mais nous ne mettons pas en avant les assemblées. Nous ne mettons pas en avant la dénomination. Nous mettons en avant le nom de Jésus-Christ. Est-il votre Dieu? Est-il votre Dieu? Est-il votre Père? De quoi avez-vous peur? Si vous pouvez dire, mais Jésus-Christ est mon Père, vous n'avez rien à craindre. Vous entendez? Vous n'avez rien à craindre. Jésus, vous savez la délicatesse du Seigneur Jésus. Vous savez sa pédagogie, vraiment c'est quelque chose de presque incroyable de voir l'humilité de Jésus. Pour devoir dire à des hommes qu'il aimait, vous avez pour père le diable, c'est qu'il voulait vraiment les électrocuter. Et leur faire prendre conscience de la religion, comment elle peut être nuisible et mauvaise. Vous avez vu, hein? On l'a eu chanté ça, l'Éternel, seul est Seigneur, seul il est dominateur. Vous vous rendez compte, moi je l'ai chanté souvent ce cantique. Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas? Vous ne connaissez pas ce cantique? Eh bien on vous l'apprendra. Ouais. Mais mes frères et sœurs, si vous ne connaissez pas Dieu comme étant ce Père, comment voulez-vous avoir la paix? Si vous ne connaissez pas ce Seigneur Jésus-Christ comme ce Dieu aimant, comment voulez-vous avoir la consolation? Vous vous tromperez constamment par des faux raisonnements. Ce n'est pas possible. Quand, alors, les gens, bon, je résume parce que je vois que le retour, les gens sont constamment dans les « je suis ». Oh, je suis minable, je suis un bon à rien. On l'entend, ça. Les chrétiens, oui, je suis, je vaux rien. Mais on vous comprend. On vous comprend. Très bien. Parce qu'on est tous pareils. Nous ne jouons pas les durs. On est à peu près tous pareils. Même si on fait des progrès certains, quand quelqu'un dit, mais je vaux rien, mais t'inquiète, je te comprends. Mais le problème, c'est qu'il faudrait quand même arrêter de vivre dans nos « je suis » à nous et de vivre dans les « je suis » à lui. Parce que Dieu ne nous a jamais demandé de faire de l'auto... Il y a un mot que je cherche. De l'introspection. C'est jamais demandé. Il nous est juste demandé, quand on prend la Sainte-Seine, de nous éprouver pour savoir si nous sommes dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. Il ne nous demande pas de nous introspecter par rapport à tout un tas de trucs. Il nous demande de nous introspecter, de nous examiner pour savoir si on a confiance en lui. C'est vrai, mes frères et sœurs. Alors, arrêtons de vivre avec nos « je suis », même parce que c'est peut-être le meilleur moyen de faire des progrès, et vivons dans les « je suis » à lui. C'est lui qui dit « je suis la résurrection et la vie ». Je suis le sept. Vous l'avez appris, tous les animateurs, là. Elle a eu les sept « je suis », c'est ça ? Les sept « je suis ». Je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger, je suis la porte. Voilà. Vous croyez ces choses de tout votre cœur ? Si vous pouviez écouter sa voix, vous l'avez lu ? On termine avec ça. Mais on y revient, parce que le mot qui est utilisé est le mot qu'il fallait. Si vous pouviez, c'est la preuve que c'est une question de volonté. Si vous pouviez, ce n'est pas si vous sentiez, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix et vous inversez toute la suite, vous n'aurez pas un cœur qui est égaré, vous ne vivrez pas dans cette espèce de lutte, de combat, vous ne vous égarerez pas, vous vivrez dans le repos. C'est pour ça que Salomon dit « Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. » Il y aura des épreuves de toutes sortes, mais vous ne craindrez rien. Si vous pouviez, alors utilisez-vous votre volonté. Voilà, je termine avec cette question et je voudrais que vous y répondiez vraiment consciencieusement. Est-ce que vous, quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous utilisez juste vos émotions ou est-ce que vous utilisez votre volonté ? Si vous pouviez écouter ma voix. Voilà, Dieu a dit ça, c'est la vérité. J'ai reçu un fax, c'est un fax, c'est, non ? C'est un gros fax, mais c'est quand même un fax, c'est une lettre du Seigneur. Oui ou non ? Est-ce que vous lui faites confiance ? Oui. Je termine avec ce témoignage, il y avait Nathanaël encore ici, et je lui dis, écoute, tu peux me faire confiance, j'amènerai ce document à la pastorale. Non, monsieur Gaud, je ne vous fais pas confiance. Et j'ai vu qu'il me connaissait vraiment, parce que j'oublie toujours les trucs. Et il m'a dit, non, monsieur Gaud, je vous connais, je sais que vous l'oublierez. Et je me suis dit, tiens, il commence à me connaître, lui. Mais voyez, bon, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me faire confiance, mais vous avez compris. Mais de suite, non, monsieur Gaud, je ne vous fais pas confiance. Alors les autres, il y avait les frères à côté, il a raison. Parce que je suis étourdi et j'oublie les choses. Mais ça, c'est une image. Mais vous pouvez faire confiance à Dieu. Il n'oublie pas. Il n'oublie personne. Même une maman oublierait son enfant, ce qui se fait, ce qui ne comprend pas trop. Mais même si une mère le faisait, Dieu ne vous oubliera jamais. Alors, faites-lui confiance. Oh, si nous pouvions l'écouter. Ce soir, avant de nous endormir, quand nous lirons la Bible, si nous pouvions l'écouter. Demain matin, quand nous nous lèverons, si nous pouvions l'écouter. Même qu'un verset. Tout à l'heure, je terminais en lisant le psaume 23. Je le disais par cœur. Je me disais, mais tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous connaissez ? Il me conduit dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Si Dieu ne restaure pas votre âme, vous pouvez le citer tant que vous voulez, réciter, ça ne sert à rien. Dieu ne restaure notre âme que quand ce qu'on lit, on le croit. Si vous lisez que vous ne croyez pas, ce n'est pas vrai. Dieu ne restaure pas votre âme, vous souffrez pour rien. Alors on va terminer en priant. Je demande à Monsieur de Dieu Norbert de venir à ma place. J'aimerais qu'on demande au Seigneur cette grâce d'utiliser la volonté. Vous voyez, on est capable de faire confiance à un ami terrestre. Moi, Monsieur Olé, je le connais. Je savais que quand il m'a dit « Oui, vous serez pasteur à Sainte-Agne », je savais que c'était décidé. Je lui faisais confiance. Et je pouvais dire aux gens « Oui, je vais pasteur à Toulouse » parce que je faisais confiance. Alors, vous pouvez faire confiance à ce Dieu qui vous a laissé sa parole à lui. Vous pouvez lui faire confiance. Faites-lui confiance. Vous entrerez dans le repos.